Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous, c'est l'heure de la rentrée, rentrée des classes notamment. Nous en parlerons prochainement dans nos émissions. L'heure de scrutin partiel également en Allemagne. Deux élections régionales particulièrement observées dans le Brandebourg et la Saxe pour renouveler les parlements locaux. Et c'est le score de l'extrême droite qui était appréhendé. Bonjour Julien Méchaussy.
Bonjour Catherine.
Alors vous êtes notre correspondant à Berlin, Julien, et comme attendu, l'alternative pour l'Allemagne, l'AfD, a une fois de plus connu une poussée spectaculaire.
Le parti anti-migrant a avec près de 28% qui triple son score obtenu il y a 6 ans en Saxe. Dans le Brandebourg, c'est un peu moins spectaculaire, plus de 23% des voix, soit le double par rapport aux dernières élections. Des scores certes impressionnants, mais un soulagement aussi pour les partis traditionnels. L'AfD n'a pas atteint son objectif, celui de devenir la première force politique de ces deux Länder de l'Allemagne de l'Est. Les sociodémocrates du SPD dans le Brandebourg et la CDU d'Angela Merkel ont réussi donc à limiter la casse, Catherine.
Vous parlez de soulagement, car malgré ces scores très élevés, l'AfD n'est pas en mesure de participer aux gouvernements régionaux. Pourtant, c'est bien l'aile la plus dure du parti qui a gagné hier soir.
Exactement, et c'est ce qui ressort dans les éditoriaux des grands journaux allemands d'aujourd'hui. Il faut savoir que dans les Länder de l'Est, c'est l'aile la plus extrême qui est aux commandes. Prenez la tête de liste, par exemple, pour le scrutin du Brandebourg, Andreas Kalbitz. Tout le monde connaît ici sa proximité avec les néo-nazis. Le Spiegel, grand magazine d'investigation allemand, a ainsi révélé il y a quelques jours la présence de Kalbitz à Athènes en 2007. C'était lors d'une marche néo-nazie. Après le rassemblement, il avait alors hissé avec d'autres un drapeau frappé d'une croix gammée sur le balcon de son hôtel. Et vous le voyez, Catherine, même ce genre de révélation n'effraie plus les électeurs.
Voilà, donc poussée de l'extrême droite et aussi confirmation de la bonne santé des Verts, Julien.
Oui, les espoirs étaient immenses du côté des écologistes portés par des sondages très flatteurs dans des régions où l'exploitation du charbon joue encore un grand rôle économique. Et avec des scores autour de 10%, les Verts obtiennent leur meilleur résultat historique dans les deux Länder de l'Est. Ils prennent donc enfin pied dans une région du pays où ils existaient à peine jusqu'ici. Mais c'est tout de même une déception, tant les Verts étaient portés par un vent d'euphorie après leur succès au niveau fédéral et en Bavière l'année passée.
Julien Méchaussy, notre correspondant à Berlin. À bientôt, Julien. De la politique, on en parle, mais pour évoquer cette fois la restauration d'un joyau de l'architecture néerlandaise, centre névralgique de la vie politique des Pays-Bas, le Binnenhof. Ce grand complexe historique abrite notamment les deux chambres du Parlement et le siège du Premier ministre. Depuis quelque temps, le Binnenhof est au cœur d'une polémique, car pendant plusieurs années, tous les responsables politiques doivent déménager le temps de coûteux travaux de rénovation. À La Haye, on retrouve Antoine Moutot.
Comme souvent, la somptueuse cour du Binnenhof est remplie de visiteurs. Beaucoup ici découvrent l'endroit pour la toute première fois. C'est le cas de Véronique, touriste française.
C'est le Parlement. Je l'ai vu dans le guide il y a 2 heures.
Ici, plusieurs fois par heure, des groupes de visiteurs se rassemblent autour d'un guide de Prodemos, un institut chargé de renseigner les Néerlandais sur le fonctionnement des institutions politiques du pays, mais aussi les touristes étrangers sur l'histoire et l'importance du Binnenhof pour les Pays-Bas. Elaine Weaver est l'une des responsables de l'organisation.
Nous nous trouvons ici au Binnenhof à La Haye, au cœur du centre politique des Pays-Bas. Autour de nous, vous pouvez voir des bâtiments de presque tous les siècles, du XIIIe siècle à aujourd'hui. C'est un véritable condensé de l'histoire des Pays-Bas.
Mais c'est aussi et surtout l'endroit favori des curieux et passionnés de politique.
Pendant les sessions parlementaires, vous pouvez observer les élus en chair et en os. C'est tout à fait possible de croiser ici notre Premier ministre, Mark Rutte, et de lui dire bonjour.
Chaque année, Prodemos propose des visites guidées à environ 45 000 touristes, mais aussi à une centaine de milliers d'écoliers. Seulement, voilà, dans un peu moins d'un an, des travaux de rénovation colossaux doivent débuter ici. Le site sera partiellement fermé pendant 5 longues années.
Lorsque la Chambre des députés, le Sénat et le siège du Premier ministre auront déménagé, nous, nous les suivrons. On emmènera tout simplement les visiteurs dans les bâtiments provisoires. On ne sera vraiment pas au chômage.
Devant le futur bâtiment du Parlement provisoire à quelques pas de la gare centrale de La Haye, Henri, 64 ans, ne peut s'empêcher de rire quand on lui demande ce qu'il pense des travaux et du déménagement.
C'est une blague qui coûte cher. Très très cher.
Au minimum, les travaux doivent coûter près d'un demi-milliard d'euros. Si beaucoup ici aux Pays-Bas comprennent l'importance de conserver le patrimoine, la facture a du mal à passer. Pareil pour le déménagement, comme le résume très bien Henri.
Quand je dois faire des travaux dans ma salle de bain, je ne quitte pas toute ma maison pendant 4 ans.
Malgré la controverse, dans un an pile, le Binnenhof sera complètement vidé de ses occupants et le plus gros des travaux pourra commencer. Après les prochaines législatives de 2021, certains parlementaires fraîchement élus risquent ainsi de ne jamais connaître le Binnenhof.
L'an dernier, le Parthénon a attiré près de 2 millions de touristes. C'est le monument symbole de la Grèce antique. Beaucoup ignorent cependant un autre attrait de la ville, un patrimoine méconnu. Au milieu du chaos, les rues et les ruelles d'Athènes révèlent parfois des trésors. Entre béton, décorations stuc et balcons en fer forgé, les bâtiments néoclassiques, éclectiques ou encore modernistes rappellent l'histoire mouvementée du pays. Aujourd'hui, nombre d'entre eux sont en ruine, mais certains ont décidé de les sauver. Charlotte Siennard.
Dans le quartier historique de Plaka, à Athènes, au pied de l'Acropole, Elisabeth est venue acheter des cadeaux. Cette retraitée française de 71 ans et son mari font une croisière. Ce n'est pas la première fois qu'ils font une halte dans la capitale grecque.
Disons qu'on est venu au départ, les grands classiques, l'Acropole, etc. Et maintenant, bon, c'est une grosse ville et puis... Il y a le côté un peu cosmopolite, le fait qu'on entend parler toutes les langues. À chaque fois, on connaît un petit côté qu'on ne connaissait pas avant.
Est-ce que vous avez remarqué l'architecture moderne d'Athènes ?
Je trouve que c'est assez mixé. Pas précisément, non.
Et pourtant, Athènes recèle de véritables trésors, comme la résidence de Georgiana Moraitou. En 1991, cette conservatrice du ministère de la Culture a décidé de racheter la maison de ses rêves, un bâtiment de style moderniste athénien, version grecque de ce mouvement architectural européen du début du siècle. Il a été construit dans les années 30 dans le quartier de Sicio. On entre et on tombe directement sur une belle cour intérieure ombragée.
Ici, à l'origine, il y avait un escalier. Il devait y avoir 4 familles qui vivaient là. Une en haut, une en bas ici, 2 autres derrière. C'était comme on le voit dans les vieux films grecs où tout le monde se rassemblait dans la cour.
Dans cette maison, un vieux long-métrage grec a justement été tourné. Le bâtiment n'est pourtant pas classé aujourd'hui.
Si j'avais eu un allègement d'impôt quelconque, je l'aurais fait classer. Mais l'État n'apporte rien. J'aurais pu construire 2 étages si j'avais voulu, mais je ne le fais pas. Je le garde tel qu'il est. Quand tu rentres dans la maison et que tu veux voir le ciel, c'est un privilège unique.
Alors que seuls 2500 à 3000 bâtiments sont classés à Athènes, en 2012, l'association Monumenta a décidé de recenser tout ce construit entre 1830 et 1940. Ils en ont compté plus de 10 000. Irini Gratia, la coordinatrice de l'association, archéologue de métier, nous emmène en balade dans le centre.
Ici, dans le quartier de Psyri, la place Koumoundourou est remarquable avec ses bâtiments éclectiques et modernes. C'est une des places néoclassiques d'Athènes, datant du XIXe siècle, mais on peut voir aussi les immeubles abandonnés. Celui-là est dans un état critique.
Le recensement, aujourd'hui accessible au public sur le site docathens.org, doit permettre d'aider les pouvoirs publics à cataloguer ces bâtiments. Il a été financé par la Fondation Stavros Niarchos. Pour Irini Gratia, il est temps d'agir. Athènes n'aurait gardé qu'environ 20% de ce patrimoine architectural.
Quand tu visites une ville, tu veux voir son centre historique. C'est pour ça qu'il est important de le sauver, en particulier pour des raisons économiques. Athènes avait des problèmes de logement suite à la disparition de beaucoup de bâtiments après la guerre. La politique de l'antiparoquie, les contreparties, a mené à la destruction des petits bâtiments, remplacés par des immeubles plus hauts. Cela a commencé après la Seconde Guerre mondiale, avec des incitations aux petits propriétaires qui cédaient leurs biens aux promoteurs, en échange d'un ou deux appartements dans les nouvelles constructions. Cette habitude de démolir et de construire par-dessus continue encore aujourd'hui. Elle s'était arrêtée pendant la crise, mais cela recommence.
Irini Gratia nuance malgré tous ses propos. Les vieux bâtiments commencent à être réhabilités pour attirer les touristes, notamment ceux qui louent par Airbnb, la plateforme de location de logements de particulier à particulier. Certains réclament des mesures pour favoriser les rénovations. Au cœur du quartier touristique de Plaka, Stratis Stratiis habite dans une magnifique maison ottomane de 1700. Cet ancien avocat est membre du syndicat des propriétaires des maisons classées. Il demande une révision de la taxe d'habitation. Sa maison est classée monument historique et il est soumis à des règles strictes, mais elle est taxée par le ministère des Finances comme une construction moderne.
On espère à présent la meilleure façon de se faire en France, mais aussi à Chypre, c'est de doter, si vous voulez, les maisons historiques dans petit taux, sans se référer aux propriétaires, s'ils sont riches ou pauvres. C'est la seule façon qu'ils peuvent être ou vendus ou réparés.
Le nouveau gouvernement en place depuis juin a récemment déposé un projet de loi qui sera d'abord soumis à une consultation publique. Il prévoit la mise en place d'une banque numérique chargée notamment d'indemniser les propriétaires de bâtiments classés qui se lancent dans des rénovations. L'idée, favoriser ce type d'investissement alors que le secteur de la construction tente de se relancer.
Il y a aussi les jeux de hasard pour sauver le patrimoine. L'animateur télé Stéphane Bern s'est inspiré de nos voisins britanniques pour lancer en septembre dernier ce nouveau type de loto. Le concept fonctionne puisque 22 millions ont été déjà récoltés pour 231 monuments en péril. Parmi ces monuments, il y a la basilique Notre-Dame de Brébières à Albert dans la Somme qui a obtenu une enveloppe de 48 000 euros pour ses travaux de restauration. Reportage Lise Verbeck.
La basilique d'Albert interpelle par son originalité en Picardie avec son style néo-byzantin. Son architecte aimait dire qu'elle était la synthèse de tout ce qu'il avait vu lors de ses voyages au Proche-Orient et en Afrique du Nord, avec notamment ce clocher qui ressemble à un minaret surmonté d'un dôme où se trouve la statue de la Vierge Dorée. Et c'est justement cette statue qui attire beaucoup de visiteurs étrangers, comme Anton, il est suédois, il est professeur d'histoire, il est venu faire du tourisme de mémoire.
Nous sommes venus faire les musées de la Première Guerre mondiale ici, car l'histoire est très forte. Nous avons entendu l'histoire de cette statue et cela nous a fascinés. C'est pour cela qu'on a fait une étape à Albert. On a fait le musée sous la basilique et nous avons vu des photos de l'époque. C'était très intéressant.
Ces photos montrent la basilique très abîmée par les bombardements avec la Vierge Dorée renversée à l'horizontale qui a résisté de longs mois avant de tomber. Laurence Catherine est adjointe chargée du patrimoine historique à la mairie d'Albert.
Notre-Dame de Brébières, c'est-à-dire cette Vierge qui tient et qui montre son enfant au monde, est tombée en avril 18. Et la légende disait, lorsque la Vierge tombera, la guerre finira. Et heureusement pour le monde entier, la guerre est terminée, comme tout le monde le sait, en novembre 18. Cette légende a parcouru la France, a parcouru le monde, et a parcouru aussi donc tous ces pays anglo-saxons pour qui Notre-Dame de Brébières est un repère et un hommage.
Si les touristes peuvent admirer une basilique refaite récemment de l'extérieur, à l'intérieur, l'édifice est très abîmé. Les peintures murales sont usées par le temps, selon l'abbé Joël Dulin.
Pendant peut-être une vingtaine d'années, il a plu dans la basilique. Hein. La basilique était très très mal entretenue. Maintenant, elle était très très bien entretenue, mais à l'époque, non, pas du tout. Et donc, il pleuvait. Et donc, les murs sont très très abîmés. Les peintures ont été très abîmées. Les toiles marouflées ont été très abîmées. Certaines ont même disparu parce qu'elles ont pourri. Et maintenant, il faut restaurer l'ensemble.
Un programme de travaux en 10 tranches a été établi tant la basilique est grande, d'où la nécessité pour la mairie d'Albert de déposer un dossier lors de l'appel à projet de la Fondation du patrimoine et du loto. L'enveloppe obtenue de 48 000 euros est un bon coup de pouce pour réaliser la première tranche des travaux, selon Laurence Catherine.
Pour les travaux qui vont avoir lieu cette année, il va falloir restaurer l'ensemble des peintures murales intérieures, donc du transept est. Cette tranche va s'attacher donc à désencrasser, à décoller la couche picturale, à développer le salpêtre au niveau des soubassements. Et puis, ce qu'il faut, c'est permettre à donner un meilleur support pour pouvoir reposer les toiles marouflées qui ont déjà été restaurées l'année dernière.
Qu'est-ce que c'est une toile marouflée ?
Alors, une toile marouflée, c'est une toile qui est posée sur une autre toile. Et donc, cette deuxième toile est posée sur le mur. Et sur la première toile, il y a des peintures.
Mais les travaux sont tellement faramineux qu'il faut trouver d'autres financements. Et c'est le rôle de l'association des Amis de la Basilique, dont Philippe Bourrel est le président.
Il faut trouver des mécènes, industriels, dans le service, dans le commerce. Il faut trouver des particuliers. Il faut motiver la population, quoi. Parce qu'en fait, la population, l'église d'Albert, c'est ça, quoi. Ça ne les motive pas obligatoirement, quoi. Et il faut leur faire comprendre qu'en fait, ce qu'on veut restaurer, c'est bien sûr l'église, mais c'est surtout un monument qui est représentatif de la ville, qui est un symbole de la ville, symbole de la guerre, de la Grande Guerre. C'est pour ça qu'on organise régulièrement des événements, donc des concerts, bien sûr, dans la basilique, mais on organise aussi tous les ans une corrida, donc une course pédestre autour de la basilique. Et ça fait revivre la ville autour de sa basilique.
L'association organise aussi des ventes aux enchères. Récemment, ils ont mis en vente notamment des objets ayant appartenu à Barbara Hendricks, qui est venue donner un concert dans la basilique en 2016.
Quelquefois, des travaux de restauration se révèlent véritablement désastreux. C'est ce qui se passe en Espagne quand des habitants se prennent pour des restaurateurs. Ainsi, en Navarre, une sculpture de Saint-Georges du XVIe siècle a été défigurée. En 2012, c'est une œuvre datant du XIXe, réalisée par Elias Garcia Martinez, qui a été saccagée de façon grossière par une grand-mère. Un véritable fiasco qui a suscité énormément d'intérêt sur cette toile, Diane Cambon.
Son coup de pinceau restera gravé à jamais dans l'histoire des restaurations d'œuvres d'art désastreuses. En août 2012, Cecilia Jiménez, une octogénaire connue dans son petit village de 5000 habitants pour ses talents artistiques, entreprend de restaurer une fresque centenaire du peintre Elias Garcia Martinez représentant le Christ. L'Ecce Homo du sanctuaire de Notre-Dame de la Miséricorde n'était alors connu que d'une poignée de spécialistes et de locaux. Le tableau avait pris l'eau et commençait à s'effriter. Le sacrilège pictural opéré par la grand-mère va curieusement donner un coup de projecteur inespéré sur cette œuvre et cette bourgade de Castille et León. Le nouvel Ecce Homo est méconnaissable. Les traits fins du visage du Christ sont barbouillés de marron, censés représenter la barbe et les cheveux. La restauration est à la fois comique, grossière et surtout très commentée sur les réseaux sociaux. Alors que pour le patrimoine historique, il s'agit d'un sacrilège, la bourgade de Borja décide de le laisser intact. Le sanctuaire devient un lieu de pèlerinage où l'on se presse pour voir l'image de l'icône défigurée. Plus de 200 000 visiteurs en 7 ans, des dizaines de produits dérivés de l'Ecce Homo sont en vente et son histoire a même inspiré un opéra américain. Le nouvel Ecce Homo est devenu une manne financière sans fin qui a permis notamment de construire une partie de la maison de retraite où loge désormais la restauratrice en herbe, Cecilia.
L'accent d'Europe, c'est fini jusqu'à demain. Ludivine Amado était à la réalisation et à la mise en onde aujourd'hui. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur notre site et sur Facebook.